about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Difior et prise de son assurée par Anthony Thomasson, réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Anna Segalevich et René Solis pour parler ensemble de 1993, texte d'Aurélien Bélanger, mise en scène Julien Gosselin. C'est au théâtre de Gennevilliers en ce moment, puis en tournée. Toute ma vie, j'ai fait des choses que je ne savais pas faire de Rémi DeVos, mise en scène Christophe Rock au théâtre du Rond-Point, puis en tournée. Et From the Ground to the Cloud, d'Eve Golac, mise en scène Olivier Coulon-Jablanca au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Aïssa Tundoy est avec nous pour surveiller les commentaires qui arrivent sur Facebook et sur Twitter concernant notre sommaire et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir des DVD du film Félicité d'Alain Gomis distribué par Jour de Fête. Et nous ouvrons, nous rendons donc au théâtre de Gennevilliers pour découvrir un spectacle créé au mois de juillet dernier à Marseille, qui va poursuivre sa vie en tournée. Le jeune metteur en scène Julien Gosselin a commandé un texte au jeune écrivain Aurélien Bélanger pour créer un spectacle avec les jeunes élèves de la 43e promotion de l'École du Théâtre National de Strasbourg. 1993, c'est le titre de ce spectacle. C'est aussi une année charnière pour l'Europe, un an après le référendum sur le traité de Maastricht, un an avant l'ouverture du tunnel sous la Manche, l'époque aussi de la fin de l'histoire théorisée par Francis Fukuyama, comme il est rappelé dans un texte projeté avant le début du spectacle. Calais, la ville de Gosselin, c'est aussi le cœur noir peut-être de ce spectacle qui interroge les mythologies contemporaines de l'Europe à travers le regard donc de jeunes gens nés pour la plupart autour de cette année 93, pour celles et ceux qui sont sur le plateau, des gens qui n'ont pas connu le mur de Berlin, qui ont toujours connu l'Union européenne. De quoi ont-ils hérité ? Allons donc à Gennevilliers avec début de spectacle. Bon, Anna Segalevich, je sais que vous avez compté les 32 néons blancs.
Ah non, il y en avait 40.
Non, au début. Premier,
ah oui, oui,
premier
au début,
tableau.
Oui, c'est vrai.
Bon, et 12 comédiens.
Oui.
Vous les avez comptés aussi. Ça, c'est pour les habitués de l'émission qui savent que nous comptons, Anna Segalevich
ah,
et moi, tous les éléments des décors.
Bon, okay.
C'est comme ça. Corinne Rondeau, vous ouais. commencez sur 1993 ?
Oui, 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 je peux commencer.
Eh ben
je peux commencer par quoi ? Commencer par une perception générale physique qui est très, très douloureuse, qui a été très douloureuse pour moi, à cause des infrabasses où j'ai vu le moment où j'allais hurler dans la salle. Donc on peut dire que c'est un spectacle au moins pour ça qui vous met dans l'inconfort. Et puis sans doute aussi, il m'a mis un peu dans une sorte d'inconfort entre le rapport de la mise en scène et du texte, qui m'ont pas paru... enfin, je dirais assez vite que la mise en scène sauve le texte. Pour moi,
texte commandé, donc
Texte commandé, oui.
Aurélien Bélanger par Julien Gosselin.
Voilà, avec cette introduction dont vous avez parlé de ce texte de Fukuyama, une sorte de 89, qui aurait une visée, un peu, enfin plutôt un aspect visionnaire sur ce que pourrait être la démocratie et surtout la fin de l'histoire, puisqu'en fait le cœur de ce spectacle, c'est comment parler de la fin de l'histoire à partir de cette génération-là, et c'est ça qui est important aussi. Il faut bien le rappeler. Par ailleurs, je trouve que la mise en scène est tout à fait remarquable parce que c'est rien qu'au départ, on a ces 12 acteurs qui sont face à nous, frontalement, à un écart très respecté, les uns des autres, qui vont annoncer leur texte, enfin pas adresser leur texte.
Je dirais plutôt.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que derrière eux, il y a juste une sorte de mur qui va peu à peu s'éclairer de néon, justement, qui va faire une sorte de chronophotographie derrière leur corps. Donc ça, j'ai déjà aimé cette dynamique des corps et de la lumière, mais surtout, ils les mettent sur un espace qui est très réduit, comme s'ils étaient sur la question de la frontière elle-même, sur la question de la limite, puisque ce qu'ils vont dire aussi au tout début de ces textes qui vont dire les uns après les autres, c'est nos limites. Voilà. Et la question sur laquelle moi je me suis arrêtée, c'est oui, bah quand il n'y a plus de limites, qu'est-ce qu'il y a ? Alors moi, ce que je regrette un peu, c'est effectivement cette question du texte de la fin de l'histoire. Parce que la fin de l'histoire, c'est quoi ? Bah, c'est aussi quand même, bon, alors le texte le dit, hein, c'est pas une idée de philosophe, c'est un rêve d'ingénieur. Bon, par exemple, c'est des choses du texte qui me mettent qui m'incommode, je dirais, parce qu'il y a trop de pensées. Ce qui est très bien dans la mise en scène, c'est qu'à un moment donné, il arrache toute cette pensée du texte pour nous mettre dans quelque chose. Et le film, j'allais dire, mais la pièce se donne en deux temps. Une partie qui est d'abord dans une abstraction, que je trouve absolument remarquable, même si c'est vrai qu'elle m'a remué aussi visuellement, parce qu'il y a des... Il y a vraiment une circulation du son, mais aussi de la lumière qui m'a lobotomisée, on peut dire. J'ai dû fermer les yeux, j'ai dû m'accrocher à mon fauteuil. Enfin, ça a été très dur. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est, vous l'avez dit, c'est le tunnel, mais c'est aussi le tunnel du CERN, qui rappelle à la fois la destruction, parce qu'il y a quelque chose de la question de la particule, de la manière de produire de l'énergie. C'est aussi un danger dans ce type de production d'énergie. Et en même temps, c'est la traversée sous la Manche, de réunir de capital qui sont aussi la question de la circulation des corps dans une Europe démocratique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'avec pas grand-chose, finalement, il y a une manière de rentrer dans l'eurodance, on va dire, voilà, cette jeunesse, où on va à la fois ce tunnel à rentrer dans un mouvement, aller vers quelque chose, mais en fait, ce mouvement, c'est une fumée qui vient vers nous, c'est-à-dire, grosso modo, c'est le mur, parce que cette pièce nous conduit à un mur. Je veux dire, la question, c'est, voilà, et c'est aussi, quand vous ouvrez un tunnel, c'est où est-ce qu'on va ? Comment on se dirige ? Donc, évidemment, tout le spectacle est une manière de nous faire revenir sur le devant cette histoire qui n'est plus. Sauf que je trouve que le mot de fin de l'histoire est beaucoup trop intellectuel. Elle est aussi marquée d'un symptôme actuel, parce qu'on nous rebat les oreilles avec la fin de l'histoire, on a un peu ras-le-bol. Alors évidemment, le prendre à bras-le-corps et le faire travailler, je trouve que c'est beaucoup mieux du point de vue de la mise en scène que du texte. Et la deuxième chose, sur la question du tunnel, c'est à la fois le tunnel avec un crépuscule, parce qu'il y a un deuxième type de tunnel, c'est pas le Rodin, c'est le crépuscule de l'histoire, où on a une sorte de silhouette, parce que ce qui est absolument génial, je trouve que c'est à la fois ces acteurs sur une limite, un territoire extrêmement réduit, on est sur la limite, et en même temps, il ouvre son spectacle dans une abstraction qui est j'enlève tous les corps, on entend que des voix. Et ça, je trouve ça absolument génial en termes de scénographie. Et puis après, il y a la deuxième partie.
Avec des corps. Trop de texte. Peu de texte, on peut dire que ça joue vraiment sur cette binarité-là aussi, enfin qui n'est pas du tout une binarité limitée intellectuellement. René Solis, sur 1993.
Alors, en entendant ce que disait Corinne, je me disais que une des vertus de ce spectacle, c'est quand même que je crois qu'il y a pas mal à en dire et qui part dans plein de directions, donc il ouvre pas mal de pistes. Je suis d'accord sur... Il y a une dimension pénible dans le spectacle, physiquement, pour les spectateurs. Il y a ce bombardement sonore et lumineux, hein, les lumières stroboscopiques qui sont quand même extrêmement présentes, dérangeante, avec en même temps un effet qui, moi, qui me gêne un peu et qui me gênait déjà dans 2666, le précédent spectacle de Gosselin, qui est le côté hypnotique et voilà, ça met les spectateurs en condition et ça m'énerve toujours un peu, moi, de me faire mettre en condition d'une façon qui est plutôt assez violente, en fait.
Et vous préférez la méthode Régie pour être mis en condition?
Et ben,
c'est une mise en condition.
Aussi, mais c'est vrai que plusieurs fois dans le spectacle, je me suis dit, tiens, je préfère quand même les spectacles de Claude Régis. Cela dit, et pour dépasser cette réaction un peu épidermique, je dois dire que des trois spectacles de Julien Gosselin que j'ai vus, je ne sais pas si on a dû en faire un autre, mais disons des trois qui sont ceux qui ont les plus circulé, Les Particules élémentaires d'après Houellebecq, 2666, l'adaptation du roman de Bolaño, et donc ce texte à partir ce spectacle appartient à un texte d'Aurélien Bélanger. Je crois que c'est celui-là qui m'a, moi, le plus intéressé parce qu'il m'a dérangé. Et il m'a dérangé de façon... Alors, sur la deuxième partie en particulier, on va y venir. D'abord, sur la première partie, je crois que je ne suis pas d'accord avec vous sur ce texte. C'est-à-dire que je trouve que ce texte d'Aurélien Bélanger, donc qui part, texte de commande sur l'Europe, il part donc de deux trous noirs et en même temps deux constructions majeures de l'Europe qui sont le tunnel sous la Manche et l'accélérateur de particules du CERN. Et il en fait des symboles de la construction européenne et aussi des symboles du mur, de l'échec, de la nuit, de la fin dont vous parliez, etc. Mais il le fait, la façon dont il articule ça, c'est plutôt assez habilement fait, je trouve, et ça s'inscrit en plus dans une tradition littéraire qui, moi, m'intéresse et me touche assez. Littéraire, qu'on pourrait dire, je sais pas, poético-prophétique. Et on retrouverait là Raoul Vaneghem, on pourrait retrouver des textes de Baudrillard, et on trouve aussi Michel Houellebecq, évidemment.
Virilio, oui.
Donc, je suis pas certain que l'habillage du texte ne soit pas plus... disons séduisant que le fond. Je suis pas le fond du texte. On y arrive assez vite et c'est Calais et c'est l'image de ce tunnel qui devait être celui du lien, celui de la paix, celui de l'unité est en fait la fermeture, le mur définitif contre lequel viennent rebondir les fantômes, c'est-à-dire les migrants et c'est-à-dire cette histoire qu'on prétend finie et qui ne l'est pas du tout puisqu'elle revient comme un impensé, un inconscient et quelque chose qui déstabilise profondément. Et c'est vrai qu'on entend quand même assez bien tout ça, et que au-delà de cette violence scénographique, sonore et lumineuse, on entend ces textes, et moi, dans ces textes, il y a des choses qui m'ont intéressé. Deuxième partie du spectacle, si je peux y venir maintenant.
Allez, comme ça, on fera après la transition.
Alors, a provoqué en moi, là aussi, un rejet, mais un rejet très puissant. C'est-à-dire que je me suis dit...
Qu'est-ce qu'on voit?
On les voit enfin incarnés. On voit des jeunes gens, ceux qui étaient...
Vous ne pouvez pas passer à la deuxième partie comme ça, parce qu'il y a ce mi-temps qui est très important, qui est le moment où ils sont... tous face publique, où ils reviennent, les 12 face publique, à Oslo.
Pour le Nobel.
Ça, c'est très important, le Nobel.
Oui,
il y a un mi-temps qui est essentiel.
Je suis d'accord aussi là-dessus. Alors, il y a deux textes qu'on entend en dehors du texte de Bélanger, qui sont donc des extraits du livre de Fukuyama et le discours de réception du Nobel de la paix en 92, discours prononcé par Herman Van Rompuy devant l'Académie... 2012, devant l'Académie de Nobel. Et ces deux textes qui pourraient être prêtés à un traitement ironique, Fukuyama en a beaucoup caricaturé, on se rend compte en l'entendant que c'est quand même plus subtil et plus intéressant que ça. C'est-à-dire qu'il a des choses à dire qui vont au-delà de la caricature qu'on a faite. Et le texte de Van Rompuy qui date d'avant la crise des réfugiés, là aussi, il pourrait être matière à ridiculiser un peu l'Europe et le discours pro-européen. En fait, c'est un discours d'une très bonne tenue. C'est un discours intellectuellement solide. Et ce qui est évidemment très gênant ou dérangeant, c'est le décalage entre le discours et la qualité de ce discours et la réalité qu'on sait et qu'on a abordée via l'histoire des réfugiés et tout ça. Mais
alors,
je m'arrête et...
Oui,
et,
comme ça, vous reviendrez après. Comme ça, on file vers Anna Sigalevitch et ce deuxième grand temps du spectacle.
Et ce deuxième grand temps, oui. Bon, alors...
Où là, L'espace s'ouvre.
L'espace s'ouvre. On est donc à ce moment-là face à une comme une boîte avec un filtre où les acteurs. Là, c'est la partie qu'on appelle partie Erasmus.
Ouais.
Donc les acteurs. Alors il y a un jeu sur la langue qui est très intéressant à mon sens dans le spectacle parce que au départ donc ils parlent en français avec cette façon très particulière de direction d'acteur de Julien Gosselin qui est presque comme un chœur avec une tonalité qui est commune avec un rythme qui est très précis qui est assez monochrome. Cordes qui sature aussi par moments, mais qui est intéressant, qui fait partie, à mon sens, de la radicalité de toute cette première partie. Puis, il y a ce discours qui est dit en anglais. Mmh. Alors, on pourrait dire que c'est une idée toute simple, hein, que ce soit dit en anglais, mais je trouve que c'est intéressant théâtralement, parce qu'ils ont des accents. Ils ont un accent français quand ils disent ce texte. Certains ont du mal à dire en anglais, mais c'est une façon de sortir de soi et de se mettre ensemble. C'est très simple, mais ça produit un effet théâtral que je trouve intéressant. Et dans cette troisième partie, donc ce sont des jeunes gens qui venus d'un petit peu partout. Donc il y a
Polonais, Hongrois, Français, Italien,
Danois, Anglais, Allemand, etc. Et ils se retrouvent.
C'est l'auberge espagnole.
C'est l'auberge espagnole, ouais, enfin, version un
c'est
peu
un trash. Remake.
C'est un genre de l'auberge espagnole. Oui, on peut dire d'ailleurs l'auberge espagnole, mais peut-être dans un autre sens, si je puis dire. Alors, donc au début. Moi, je trouve que c'est très intéressant la façon dont ce plateau est désincarné, est vide de corps et où c'est le son. Et la deuxième partie, ça s'incarne. Et là, on a à nouveau cette façon très particulière qu'il y a dans les précédents spectacles de Gosselin, à mon sens, de mettre en scène des corps. C'est-à-dire que c'est extrêmement charnel. En même temps, c'est une chair qui est triste. En même temps, c'est une chair qui est juvénile, qui est belle. C'est-à-dire que c'est étrange, le mélange de la violence et de la beauté. Il y a quelque chose de presque castelluccien, je trouve, dans sa façon de traiter les corps avec ce filtre que moi, je trouve absolument magnifique. Et c'est trash. Là, vraiment, là, c'est le constat de l'échec parce qu'on voit une jeunesse qui est pleine de drogue, pleine d'alcool, qui est assez vide de pensée. Enfin, en gros, qui se met par terre, qui s'en met plein la tronche, qui, non, mais c'est ça.
Oui, c'est
et
ça.
C'est assez orgiaque et ça va dans tous les sens. Et quand un discours commence à s'articuler, il est assez terrifiant. Voilà.
Pour dire ça comme ça. Et d'autres, il faut même préciser que donc on a ces comédiens sur le plateau et qu'il y a un écran
qui
fait la deuxième
partie.
Un écran qui
les filme, très important. Ouais.
La partie haute, on va dire, d'une moitié d'ouverture de plateau et que c'est filmé en un plan séquence qui dure quand même une bonne quarantaine de minutes par un élève du TNS, un peu comme le fait Cyril Test dans ses mises en scène aussi, puisqu'on a le film et l'action qui se déroule en dessous. Commentaires sur cette partie.
Alors moi je la trouve extrêmement réussie cette partie, je la trouve absolument fascinante, je la trouve terrible, mais ce qui me plaît c'est l'articulation théâtrale de tout ça, parce que avec en partant au départ d'un texte assez théorique, puis ensuite en allant dans le discours face publique et ensuite dans plus de discours parce qu'il n'y a plus rien à dire et que c'est les corps qui sont donnés en pâture parce qu'il reste plus que ça. Parce qu'il n'y a plus de pensée, il y a quelque chose comme ça. Il y a une sorte de ratage qui est mis en scène, qui est exposé, qui est donné à voir, qui est d'une tristesse terrible, avec des lumières qui vont se rallumer à la fin, qui sont...
lumières crues, là.
Blafardes, qui sont assez effrayantes, assez terrifiantes. Finalement, on n'est pas très loin de ce qui se raconte dans les particules élémentaires aussi, hein, dans le côté post-dramatique, post-historique, dans les particules élémentaires, il y a ces années 70 utopiques qui mènent forcément à la violence des années 90. Là, une forme de croyance, de foi en l'Europe, en l'Union, etc., des années 90 qui se transforme en mur barbelé aujourd'hui. Ah, il y a une chose que j'aime pas, par contre, je voudrais quand même dire. Je trouve ça vraiment dommage que dans la deuxième partie, quand il parle de la foi au mi-temps, quand il parle de la foi en l'Europe, etc., il parle de la Shoah, et à ce moment-là, on voit des baraquements qui sont comme des camps de migrants. Non, personne n'a vu ça.
J'ai pas vu non plus. Mais
non.
Ok.
Corinne, Rondeau.
Il y a des baraquements, mais c'est pas cet endroit-là, si. Enfin, j'ai pas souvenir. Enfin.
Alors, on n'a pas vu.
J'ai vu des images comme ça et j'ai trouvé ça dommage.
Ah oui, j'ai pas du tout vu ça.
De faire l'analogie, moi, peut-être que j'ai interprété.
Alors, revenons sur cette deuxième partie, Corinne Rondeau, avant de revenir vers
moi, je trouve qu'elle est formidable, même si tout est pénible pour moi dans cette pièce. Hein, je veux dire, mais moi, ce que je trouve formidable, c'est cette idée de la limite. Parce que, d'abord, je trouve que c'est le mot sur lequel il faut qu'on pense tous. Et le théâtre est là pour nous faire penser. Là, je suis d'accord avec René. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à penser de ce spectacle, même s'il met dans l'inconfort, même si j'aime pas le texte, parce que je le trouve extrêmement administratif, sans doute pour des raisons qui tiennent aussi à ce qu'il va prendre d'autres textes théoriques. Et donc, et la dimension même polémique ou polémiste qu'il pourrait y avoir. Et ce que j'aime beaucoup dans la deuxième partie, indépendamment de la mise en abîme, avec cette distance avec les corps qui jouent et en même temps cette caméra qui les rapproche, qui nous donne justement une autre lumière, une autre manière d'être à l'intérieur. C'est-à-dire, quel choix fait-on ? On regarde à distance ou on regarde de près ? C'est ça aussi l'inconfort, et ça je trouve bien parce que c'est une manière d'être. Qu'est-ce que c'est que la limite ? Est-ce que c'est aussi une question de distance ? Mais c'est aussi de se poser la question du retour de refoulé. Parce que cette jeunesse, Erasmus, c'est beau européen. Et dans le texte, on dit « happy nation ». Ça m'a fait penser à « happy end » aussi. Mais je ne vais pas, parce que là, j'ai une thèse à réécrire.
On y pense.
Mais bien sûr qu'on y pense.
Qu'est-ce qui passe à Calais ?
Ce qui passe à Calais, parce que...
Et puis comme des fantômes, c'est pareil, c'est traité de la même façon.
La question Non, mais parce que ce qu'il y a de très intéressant entre les deux, c'est que les migrants n'y sont pas.
Exactement.
Qu'ils n'y sont pas, ils sont hantent littéralement nos vies. Et là où se passe la vie, c'est effectivement avec ces jeunes, qui sont la jeunesse d'aujourd'hui, bon, elles se nitratent. Mais en se nitratant, elles ne savent plus non plus sur quelles limites leur corps tiennent. Et c'est ça qui est formidable, parce que d'un coup, le retour du refoulé qui est lié au discours devient le retour du corps. Et ça, déjà dans les particules élémentaires, je l'avais vu, parce qu'il a, Gosselin, une manière de mettre tous les corps ensemble. Et ça, je connais pas beaucoup de metteurs en scène, même Castellucci, même. Je dirais que là, on a un metteur en scène. Je veux dire, il est évident, très atypique. Et là-dessus, il a des trucs. Je veux dire, il y met le pied dedans, il y va à fond. Et ça, bon, moi, respect, comme dirait la jeunesse, Erasmus. Et donc, ce que je trouve
mais
génial...
Mais elle ne respecte rien, la jeunesse Erasmus.
Mais justement, elle ne nous respecte pas non plus. C'est pour ça que c'est aussi inconfortable. Et là où il n'y a pas la limite, c'est que cette jeunesse pourrait être autre chose, et c'est ce qu'il montre à la fin. C'est-à-dire cette manière. Et ça, je veux dire, même un réac comme Bernanos, qui est aussi un écrivain génial, pas besoin de passer par Fukuyama ou d'autres visionnaires, qu'il a dit dans La France contre les robots, les démocraties ont des amis des fascismes. Et c'était en 45 qu'il a écrit ce texte. Donc, à un moment donné, effectivement, la jeunesse, elle peut être comme tout le monde, Erasmus ou pas, mais elle est toujours au point de la bascule. C'est-à-dire que la pièce de Gosselin, c'est le bord. On est au bord. Et la question, c'est le réel. Et ça. Et le réel, c'est les migrants. C'est pour ça qu'il ne peut pas les mettre sur scène. Parce que sur une scène, on ne peut pas mettre du réel.
René Solis.
Alors, j'ai pas vu et entendu exactement la même chose dans cette dernière partie. Je suis passé par deux états successifs contradictoires, ce qui est toujours bien dans le spectacle quand il y a du rejet et puis de l'adhésion. Enfin, j'ai commencé par cette arrivée comme ça des corps, cette incarnation. Elle m'a extrêmement dérangé parce que j'ai trouvé que dans la première partie de cette fête décadente, orgiaque, où l'alcool la défonce, coule à flot, je l'ai trouvé terriblement rempli de clichés et terriblement presque dérangeante à force de clichés. C'est-à-dire que je me suis dit, mais on dirait presque un spot de propagande de fondamentalisme pour illustrer la décadence de la jeunesse européenne. Qu'est-ce que c'est que cette vision d'Erasmus et de l'Europe ? Il y a là quelque chose qui est quand même extrêmement gênant et je me suis senti très mal à l'aise et mal à l'aise au point presque d'un rejet, de pas lever pour partir. Et puis, au fur et à mesure, j'ai regardé et on découvre les choses peu à peu et c'est là où il est bon, effectivement. Et c'est pas n'importe quelle soirée, c'est pas la soirée de la jeunesse européenne Erasmus. On découvre peu à peu ce qu'il y a accroché au mur. Qu'est-ce qui est accroché au mur ? C'est des symboles nazis, nationalistes. Et donc, c'est pas une soirée de la jeunesse européenne, c'est une soirée d'identitaires européens, de jeunes identitaires. En gros, c'est une soirée facho.
Et c'est ça qui se révèle peu à peu.
Et c'est ça qui se révèle peu à peu. Et c'est ça qui, tout d'un coup, fait un choc et qui, pour le coup, moi, m'a retourné d'une certaine façon parce que j'ai trouvé cette vision extrêmement noire, extrêmement pessimiste et pour le coup extrêmement réussi parce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus d'une violence incroyable et où là tout d'un coup effectivement là on retrouve et on comprend un peu mieux peut-être ce que cherche Gosselin, ce qui l'obsède dans ses spectacles. Et là je vais pas amende honorable, mais je reconnais, moi qui suis toujours un peu, qui a toujours été un peu réticent au spectacle Gosselin, je reconnais en tout cas une cohérence dans ce qu'il l'obsède, ce qu'il cherche, qui est en gros la question du monstre et la question de la désillusion absolue. Et c'est évidemment Houellebecq, c'est Bolaño, c'est aussi ça, et c'est là, de ça dont il essaye de parler. Et le spectacle se termine en plus sur une ultime citation de Fukuyama, qui est une belle citation, qui dit, si je me souviens bien, l'époque de la fin de l'histoire sera une période d'une très grande tristesse. Et cette tristesse, elle est là, elle est présente, et on peut dire qu'il fait le boulot, Gosselin, là-dessus.
Je suis heureux de vous l'entendre dire. Peut-être un ou deux commentaires à Aïssatoun Doï sur les réseaux.
Oui, sur les réseaux, Célia Clavel qui a trouvé le propos soit incompréhensible pour la première partie, soit vain pour la deuxième, rendant la pièce présomptueuse et décevante, malgré, souligne-t-elle, une mise en scène assez intéressante, et un message pas moins mitigé d'Élodie M, qui n'a pas trouvé le spectacle transcendant. Ayant étudié les thèses de Francis Fukuyama, elle nous confie n'avoir rien appris sur ce qu'elle savait déjà. Oui. Déception et ennui. Donc pour Élodie, pourtant très fan du théâtre de Julien Gosselin habituellement.
Bon, moi je ne vais pas répéter ce que vous avez tous dit, mais bon, le texte, il faudrait le lire, le texte d'Aurélien Bélanger.
Alors moi je l'ai lu, je le trouve bon.
Bon.
Je le trouve bien écrit, je ne le trouve pas si bon que ça. Je veux dire,
qu'il est en tout cas compliqué à recevoir, cette première partie quand même. Moi, ça ne m'est pas pénible la musique. Je voudrais souligner le travail musical, encore une fois, de Guillaume Bachelet, parce que moi j'ai pris un très très grand plaisir, comme toujours d'ailleurs dans ces spectacles,
moi aussi,
à entendre le son. Non mais c'est bon parce que c'est fort là en l'occurrence. Notre ami Vincent Macken, j'avais oublié son nom, pardon, où la musique est forte pour produire un effet seulement physique. Là, je trouve qu'il y a une qualité musicale tout à fait réelle, et le travail visuel, la première fois que les panneaux de néon s'ouvrent et que les jeunes gens partent dans ce tunnel, c'est quand même
ce trou noir,
cette image du ventilateur comme en négatif qui arrive au bon moment, et puis l'apparition des corps, sont quand même des choses tout à fait magnifiques. Mais bon, alors j'essaierai de lire ce texte d'Aurélien Bélanger. Il me semble qu'il assène quand même des choses. Il n'est pas seulement administratif, mais ça c'est vraiment sa marque de fabrique, si je puis dire, pour avoir lu ses romans publiés. C'est vraiment extraire des éléments factuels du réel, les mettre côte à côte, mais je suis pas toujours sûr du sens que ça produit. Oui. C'est pour ça que je voudrais regarder de près. Et puis, dire enfin, vous dites au bord, il va au bord. Et moi, je voudrais pas oublier les toutes dernières images du spectacle qui sont de Calais et de ses environs, d'abord des falaises, dans un très grand silence.
C'est le désert rouge.
Non, mais c'est absolument magnifique. Et c'est quand même là-dessus qu'on reste. Moi, j'ai donc vu hier après-midi, une fois que le noir est venu, il s'est passé beaucoup de temps avant que quiconque ose taper dans ses mains pour applaudir, ne sachant pas si le spectacle était fini. Enfin, il y avait quelque chose d'assez, respectueux du travail qu'il venait de voir. Et je trouvais ça assez beau, c'est assez rare quand même qu'il y ait ce temps de choc dans la salle. Corinne,
oui, non, mais je pense que c'est joué sur le dépaysement, comme sa pièce est un dépaysement. C'est-à-dire, vous ne vous reconnaissez pas, et même les banalités ou les clichés que relève René, c'est vraiment par le cliché qu'on peut voir effectivement que ce sont aussi des mots d'ordre, et que toute une génération peut s'enfoncer dans des mots d'ordre, et que le mot d'ordre, ça conduit des gens absolument normaux à se bourrer la gueule, à devenir des fachos.
Anna voulait dire une dernière chose.
Oui, parce que c'est encore une fois, je trouve, sur l'héritage. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que vous disiez, René, je suis absolument d'accord, mais il y a aussi sur l'héritage, comme le dit le texte et comme le dit Gosselin, il le dit, les conservateurs d'un musée triste qui ne leur appartiendra jamais. Et on sent ça très fort dans le corps de ces jeunes gens qui donc sont nés au moment où se passe l'histoire. Pareil pour les acteurs des particules élémentaires qui étaient évidemment plus jeunes, etc. Et je pense que c'est un élément qui est très important aussi dans son théâtre.
Le mot de la fin, Corinne
Rondeau.
Non,
ça va, parce que je
vais
parler trop longtemps. Ouais.
Bon, 1993, texte d'Aurélien Bélanger et Julien Gosselin, mise en scène Julien Gosselin, jusqu'au 20 janvier au théâtre de Gennevilliers, puis tournée 24 et 25 janvier, ce sera au Thalia Theater d'Hambourg, 16 au 17 mars à la scène nationale Le Phénix à Valenciennes, du 26 mars au 10 avril au TNS à Strasbourg, donc 17 au 21 avril au Théâtre de Liège en Belgique, 16-18 mai au Théâtre Vidi Lausanne, et enfin 15 et 16 juin au Printemps des Comédiens à Montpellier. À suivre dans la dispute, Christophe Roque et Olivier Coulon-Jablonka.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir au spectacle vivant, qui fait aussi la part belle aux auteurs français contemporains, après Bélanger et Gosselin, avant Yvan Coulon-Jablonka, et surtout l'auteur de ce spectacle, pardon, j'oublie son nom, Eve Golac, pardon. Là, il s'agit de Rémi DeVos, avec un spectacle qui a fait courir tous les festivaliers d'Avignon à la Manufacture, c'était à l'été 2016. Chaque année, un spectacle du off se distingue particulièrement cette année-là. En l'occurrence, c'était « Toute ma vie, j'ai fait des choses que je ne savais pas faire » dans une mise en scène de Christophe Roque. J'ai lu depuis que c'était là aussi un texte de commande. Il l'avait créé en novembre 2015 dans son Théâtre du Nord à Lille. Spectacle aujourd'hui à l'affiche du Théâtre du Rond-Point à Paris avant de poursuivre sa vie en tournée. Un seul en scène, porté par Juliette Plumecoq-Mesch, qui nous fait entendre l'histoire d'un homme, ou peut-être déjà mort, se souvenant de cette soirée fatale, mais aussi de bribes de sa vie.
Ce type, à qui je n'avais rien dit, à qui je n'avais rien demandé, il n'en pouvait plus de la perspective de me casser la gueule. Et il était en attente d'une réaction qui ne venait pas. C'est comme ne pas pouvoir venir au plus fort de l'excitation, ou souffrir d'une grave constipation. On reste bloqué à se demander comment c'est possible d'aller plus loin sans que rien ne se passe. Le type, je voyais bien qu'il ne savait pas quoi faire de sa violence, et qu'il cherchait à s'en défaire d'une façon ou d'une autre, mais qu'il ne voyait pas d'autre moyen que de s'en décharger sur moi. Qu'il attendait même une sorte de collaboration de ma part, que je l'aide à se débarrasser de cette violence qui faisait plus que le gêner, qui commençait à le rendre malade complètement. Ok ! Le problème, c'est que j'étais pas du tout prêt à le libérer de ça. J'étais pas du tout dans cette disposition d'esprit. Me faire casser la gueule pour le libérer d'un poids qui l'empêchait presque de respirer, c'était pas du tout ce que j'avais dans la tête. Je cherchais seulement à me sortir de ce mauvais pas, parce que c'en était un de mon point de vue de mauvais pas. Un mauvais pas dont je ne peux pas dire où je m'étais mis moi-même. D'abord parce que je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on se mette dans un mauvais pas, même s'il est correct d'employer la formule, se sortir d'un mauvais pas, ou encore se tirer d'un mauvais pas. Et ensuite, et c'est le plus important, je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça, l'aider à se débarrasser de sa violence en la prenant sur moi, en l'invitant à s'en décharger sur moi. Parce que pour ça, il faudrait que je sois un saint, ou un fou, ou je sais pas moi, que je sois Jésus en personne, alors que je ne suis rien qu'un type ordinaire qui prenait sa bière sans rien demander à personne. Mon seul souci, c'était de sortir de cette situation et de l'en sortir aussi par la même occasion, qu'on se sorte tous les deux de cette situation avec le moins de violence possible, en sachant que cette violence, s'il était obligé d'y plonger, c'était avant tout contre moi qu'elle allait s'exercer. Il n'y avait là-dessus absolument aucun doute, étant donné que je ne lui opposerais aucune résistance, que je serais incapable de me défendre. Et ça, je n'arrivais pas à m'y résoudre. J'étais obsédé par cette pensée, comment sortir de cette situation, chaque seconde passant de plus en plus critique, mais je ne voyais aucune sortie possible. J'étais comme un rat, prisonnier dans un terrier avec un renard qui creuse et dont la gueule n'est plus qu'à quelques centimètres. Toute ma vie, j'ai fait des choses que je ne savais pas faire. Et là encore, je me trouvais dans une situation où je ne savais pas quoi faire. Mais cette fois-ci, rien ne me venait.
Voilà pour cet extrait du spectacle « Toute ma vie, j'ai fait des choses que je ne savais pas faire ». Texte Rémi DeVos, mise en scène Christophe Roque, interprétation Juliette Plumecoq-Mesch. Spectacle qui vit une longue vie en tournée. René Solis va commencer par nous en parler.
On peut commencer par parler de la performance de Juliette Plumecoq-Mesch, qui interprète donc ce monologue et qui a une évidence de présence, on va dire, qui, tout de suite entraîne, embarque, il n'y a pas de problème. La question qui est immédiatement balayée de cette actrice qui interprète le texte, le récit d'un homme, et cette histoire de homme-femme, elle est au bout d'une minute, on n'y pense plus du tout. Elle est homme et femme, on s'en fiche, elle est tout ça, et elle est surtout une actrice d'une présence et d'une précision, d'un rythme, voilà, donc elle embarque son monde, et la performance, moi je l'ai trouvé vraiment assez remarquable. Il faut dire en plus qu'elle est allongée quand même la plus grande partie du spectacle, donc c'est très difficile, on le sait,
de parler
couché, hein. Mm-hmm. et elle le fait avec une puissance, une vitesse, un rythme, une façon de maîtriser les choses et en même temps de se laisser emporter. Voilà, il y a tout ça et je trouve assez remarquable. Le texte est, disons, peut-être un peu moins bon, c'est-à-dire que on est quand même dans des terrains relativement balisés, hein. On va sans faire jouer les anciens combattants, mais il y a quand même Coltès, La nuit juste avant les forêts, il y a eu il y a pas si longtemps Laurent Mauvigny aussi, ce qu'on appelle oubli, hein. Ouais. On n'est pas loin de tout ça, et on peut pas dire qu'il renouvelle extrêmement le genre. Il y a un côté, ça s'entend bien, il y a un usage permanent de la répétition, il y a le côté comme ça en boucle, donc c'est un texte qui avance en spirale un peu, mais je peux dire que j'ai été plus admiratif de la performance que du texte lui-même. Et puis il y a la chose dont on ne peut pas parler et qui est quand même quelque chose de formidable dans le spectacle qui se passe, parce que pour le coup il y a un coup de théâtre complètement extraordinaire, je trouve, et complètement inattendu. Ce coup de théâtre là qui est absolument tout à la fin. Il est, alors, je trouve qu'il réveille son monde, justement. Si on pouvait avoir l'impression que ça tournait un peu en rond, il se passe un événement tout d'un coup est, de l'ordre de l'inouï et auquel on ne s'attend pas du tout. Voilà.
Anna Segalevitch, qui a rappelé par un geste ce que Corinne Rondeau avait visiblement.
Non, mais je ne l'ai pas perçu comme ça, c'est pour ça.
Bon, mais on en reparlera après. Alors, Anna Segalevitch.
Alors, oui. Bien sûr, Juliette Plumcock-Mec est objectivement formidable. Voilà, elle est très très bien. Elle tient du début à la fin ce personnage avec une gestuelle qui est extrêmement particulière. C'est vraiment chorégraphié. Hein. Donc au départ, elle est au sol, puis elle glisse en arrière. Puis on dit, elle prend presque des poses de dessin animé. On dirait le génie d'Aladin, je trouve, par moments. Elle a une façon de se tenir en scène, de se mouvoir, qui est très très particulière et étonnante. Mais moi, je dois dire que pour moi... Alors, je me suis souvenu en arrivant au rond-point que j'avais déjà vu le spectacle à Avignon.
Oui.
Voilà, ça m'arrive régulièrement, mais c'est pas grave, c'était pas très long. Et puis le spectacle me plaît plutôt, donc c'est pas très grave. Mais j'avais eu le sentiment à Avignon de quelque chose de légèrement plus neutre, légèrement plus sobre, et qui là vire par moment un tout petit peu à l'exercice de style. C'est-à-dire que je vois les coutures, l'habileté, oui, c'est du bon théâtre, c'est bien fait, c'est objectivement très bien joué. Il n'y a rien à dire de négatif sur ce spectacle, mais pour moi, il y a quelque chose qui vire un petit peu à l'exercice de style. Et il y a deux digressions dans le spectacle qui sont un petit peu explicatives psychologiquement, que je trouve dommage. Voilà, je suis pas enthousiaste du tout sur le texte. Même, c'est un texte qui se dit bien, qui se joue bien. C'est un théâtre qui est agréable et confortable, je dirais, alors que le sujet ne l'est pas du tout. Et il y a une distance qui est trouvée, qui est assez subtile, d'ailleurs, hein, parce que Rémi Devos fait toujours ça. Il est toujours à la lisière d'un théâtre avec des sujets qui sont pas du tout évidents, mais il arrive à trouver une forme qui fait qu'on est intéressé, on est un peu dérangé, mais pas trop. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une forme de rondeur qui, à mon sens, est un petit peu dommage et qui, je dois dire, me passionne pas. Enfin, en tout cas, ne me trouble pas plus que ça. Alors que le sujet et l'actrice pourraient soulever ça.
Alors, j'ai précisé que tout à l'heure, c'était une commande de Christophe Roch à Rémi Devos. J'ai pas précisé que c'était pour être joué dans les lycées. Ce qui a été fait à très nombreuses reprises pour ensuite avoir un débat avec les lycéens. Faut voir aussi peut-être
que... Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Alors là, on en parle parce que c'est à l'affiche d'un théâtre normal, payant, et que ça va être en tournée. Mais il y a cette histoire-là aussi.
Oui, et le spectacle montre, voilà. Et le spectacle met très bien en scène l'absurdité, l'injustice, la peur, l'absurdité de la vie et de la mort, les deux. Ça pointe vraiment extrêmement bien du doigt ça. Au départ, quand elle parle, elle est face contre terre et on se demande si c'est une voix errante. On a vraiment l'impression d'une sorte d'âme comme ça, qui se promène.
Vous dans les limbes.
Les sourcils, Corinne Rondeau.
Non, je vous écoute parce que je pense.
Ah, d'accord. Très bien. Oui, comme ça, qui se promène dans les limbes et quand ça s'incarne, enfin, c'est. Oui, c'est réussi.
Corinne Rondeau.
Ouais, moi je suis pas convaincue par le texte. Il m'a agacée profondément. Je suis d'accord avec vous, pas de problème. L'actrice d'ailleurs, la comédienne fait tenir ce texte. par son corps, parce que c'est une situation, comme vous l'avez décrite, allongée. On se dit, bah, moi je trouve génial l'idée que cette voix vienne d'ailleurs que de ce corps qui est au sol. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que moi j'aurais voulu que quasiment pendant 45 minutes ce soit comme ça. Parce que d'un coup, il y a quelque chose de l'image du corps dans ce qu'elle décrit des situations qui auraient été mon travail imaginaire. Et ça, j'aurais adoré vraiment. Il y a une chaise qui ne sert qu'une fois et qui est très très bien utilisée d'ailleurs. Mais je trouve que le texte a une urgence. Il a une manière de venir, vous l'avez dit, souligné, il s'écrit en boucle. Ces boucles sont une manière, enfin, je crois, hein, de souligner l'incompréhension. Pourquoi ? Enfin, le personnage, c'est Job. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Il est dans un bar, il boit un verre et de dos, un type arrive et l'agresse. Voilà, il l'injurie. Voilà. Et effectivement, la question de l'homosexualité qui est en jeu. Est-ce que c'est vraiment l'homosexualité ou pas ? On imaginerait que oui, mais ce n'est jamais affirmé, puisqu'en fait, le mec, il gueule, c'est il gueule, sale pédé ou quelque chose comme ça.
Suceuse. Petite suceuse.
Oui, bon, enfin, en tout cas, le terme de pédé, je crois qu'il est, il est cité. Donc, mais rien ne l'affirmerait vraiment. Donc, c'est vraiment la question de l'autrui qui est en jeu. Évidemment, c'est la question de l'autre est toujours une incompréhension. Sauf qu'effectivement, vous avez parlé, Anna, des dimensions un peu psychologiques, je crois. Et d'un coup, le texte vient se fracasser sur une explication. Et là, d'un coup, ça enlève des
choses. Sur une biographie
du
personnage.
Ouais, ouais. Et même un souvenir d'un copain du personnage, qui fait qu'on a d'un coup une poursuite qui s'enchasse dans un souvenir qui va devenir sa propre poursuite, pour arriver à une incompréhension redoublée à la fin. C'est le grand tatan de René, hein, voilà, on est surpris. Et pour nous parler de quoi? Pour nous parler de la peur. Mais en fait, ce texte, pour moi, il m'a dérangé. Il m'a dérangé pas au sens de, oh mon Dieu, je suis outré ou je sais pas quoi. Mais je trouve que ce fond de texte travaille sur la victime. Et ça m'agace profondément, parce que je trouve que à un moment donné, la question, je dirais, de la peur ne doit pas être la peur de tous. Elle doit être, et d'être dans une explication de la raison pour laquelle je suis un lâche. Puisqu'en fait, il faut fuir quand on est un lâche. Donc, moi, j'ai vraiment des a priori très très grands sur le texte et le sous-texte du même si je trouve que la comédienne, elle est impeccable.
René Solis, très rapidement.
Non, là où je vous rejoins peut-être, c'est dans l'idée que finalement au théâtre, la parole des salauds est plus intéressante que la parole des victimes, et que donc il y a là effectivement quelque chose qui est relativement convenu. Cela dit, comme il est malin, Rémy DeVos, il le sent. Donc là aussi, il le retourne un peu à la fin. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué quand même.
Ouais, moi j'ai pas du tout ressenti ça non plus. Je l'ai pas lu, ça c'est vrai. Mais moi j'avais été très
Il y a du masochisme.
Oui, ben alors ça fait écho à quelque chose en moi, allez savoir.
Pour moi, le spectacle est légèrement déplacé. À Avignon, moi, j'ai pas ressenti exactement les mêmes choses qu'ici. Pour moi, le spectacle s'est déplacé parce que il s'est arrondi, il s'est enrobé. Il y a une assurance qui fait que on glisse vers quelque chose de moins tenu.
Très rêche, très tenu.
Ça l'était moins, à mon sens.
Bon, après, c'est la difficulté de jouer longtemps un même spectacle. Ouais. On se réjouit que ce spectacle tourne. Quand j'ai découvert, il me laisse un très fort souvenir. Bon, allez voir par vous-même, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Toute ma vie, j'ai fait des choses que je ne savais pas faire. Texte de Rémy DeVos, mise en scène Christophe Roque, joué par Juliette Plumecoque. Vous y dites mec parce que vous êtes renseigné.
Mèche.
Non, mais je ne sais pas. Peut-être qu'elle souhaiterait qu'on dise mec. C'est mèche, M-E-C-H. Pardon à elle si elle nous écoute pour les deux façons de le dire. Donc jusqu'au 4 février, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris. Puis le spectacle poursuit sa vie en tournée aux scènes du Jura à Dole les 8 et 9 février. 13 février, espace Jean Villard d'Arcueil. 15 février, au Théâtre de Lisieux. Et puis du 20 au 23 février, au Théâtre 140 à Bruxelles.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant, c'est From the Ground to the Cloud, d'Ève Golac, mise en scène Olivier Coulon-Jablanca au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Nous avions déjà parlé du metteur en scène à propos de 81 Avenue Victor Hugo, création collective avec des étrangers en situation irrégulière dont il était le metteur en scène, qui entrait dans le cadre des pièces d'actualité initiées par Marie-Josée Malice au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Peut-être pièce d'actualité dont nous avons parlé récemment aussi. 80 Avenue Victor Hugo avait dépassé le cadre de ses représentations à la commune et avait même été donné au Festival d'Avignon. Cette fois, c'est un texte d'Ève Golac qu'Olivier Coulon-Jablanca met en scène. Texte qui s'intéresse encore une fois au territoire de Seine-Saint-Denis à travers l'implantation des data centers. Ces hangars remplis d'ordinateurs qui stockent les données du web. L'équipe du spectacle a donc enquêté sur ce monde souvent très opaque qui se retrouve autour de Fab Lab, d'incubateurs d'entreprises et de hackathons.
On ne s'est pas rendu compte, hein, mais on a tous pris un acide. On vit dans un monde, mais... Non, mais je n'ai pas d'autre mot pour vous le dire. On vit dans un monde, mais... Non, mais il va falloir s'y habituer. Hein. L'an 2000 sera bientôt là et je pense que nous avons devant nous quelques dizaines d'années de prospérité économique comme on n'en a jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Excusez-moi d'être optimiste. Hein. Alors, ces petites puces électroniques qu'on achète par paquet de 1000, elles ont l'air stupides comme ça. Mais grâce à leur taille et à leur prix, elles vont partout. Aujourd'hui, grâce à Internet, elles sont connectées entre elles. Ces puces, dès qu'elles sont un réseau, deviennent une intelligence redoutable. Elles entraînent tout dans les filets du web sous forme de 0 et de 1. Le bit va bientôt remplacer l'atome. Et vous devriez commencer à vous entraîner à considérer une voiture comme une puce à 4 roues. Un avion comme une puce avec des ailes. Une ferme comme une puce sur laquelle pousse du blé. Aujourd'hui, le monde n'est qu'information. Et plus l'information circulera, plus elle sera souple et précise, et plus le monde deviendra beau. Mais pour cela, il nous faut plonger dans l'économie du web. Branchez-vous, lâchez tout. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ce monde, tout sera gratuit. Tout. Les objets, les infos, ce sera à vous, ce sera gratuit. La valeur n'est plus dans les objets, mais dans les réseaux qu'ils tissent.
Voilà pour cet extrait de From the Ground to the Cloud. Anna Segalevich, pour commencer.
Alors, enquête, je ne sais pas, c'est plutôt un retour sur les origines, en fait, de tout ça, parce qu'on est très vite
J'ai lu le dossier emmené, de presse, hein, j'ai lu ça, moi, oui, j'ai oui. pas pu voir
non,
le
non, bien
spectacle
sûr, mais
encore.
Je vous dis ce que j'ai, en tout cas, moi, j'ai vu et
comme
perçu,
ça.
Ouais, bien sûr, en voyant le spectacle. Ça commence par une jeune femme, donc au départ, on est en 2017, on est aujourd'hui.
On est en 2018, aujourd'hui.
Ah donc, oui, on est en 2018.
Faites comme vous voulez, hein,
le spectacle se passe,
Anna.
En 2017, il y a des projets qui sont présentés et dont un qui propose de voyager dans le temps et donc de revenir à l'histoire aux origines de notre ère numérique. Donc,
d'accord.
Voilà. Alors c'est un drôle de spectacle parce que c'est un spectacle qui, à certains égards, est sympathique parce que il est de un peu de briques et de broc. Il a quelque chose de très artisanal et on est plongé comme ça dans ce San Francisco des années 60 et de la Silicon Valley où au départ on comprend, et c'est des choses qu'on sait pas forcément, hein, que la naissance d'Internet au départ était vraiment liée au désir de donner aux gens des outils gratuits qui les rendent libres, que c'était très baba cool et hippie et que l'idée était très belle au départ, de l'importance aussi de créer son propre cadre, parce que le projet du spectacle est aussi ça, de dire aux gens, écoutez, voilà, ne consommez pas sans réfléchir. C'est à vous de vous donner votre propre cadre et de comprendre ce qui vous est proposé et de dire oui ou non. Voilà. Après, l'articulation du spectacle est quand même très particulière parce que, en fait, moi, j'ai eu du mal à comprendre si c'était au premier ou au second degré par moment. C'est un spectacle qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui est comme ça, ils se promènent sur le plateau, ils font des choses. Il y a une comédienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Malvina Plega, que je ne connaissais pas, et qui a un truc très très étrange parce qu'elle crée une ambiguïté où on comprend pas si elle est ironique ou au premier degré, mais moi ça me plaît. Enfin, il y a une étrangeté qui se dégage d'elle, elle a un physique, en plus elle a un très beau visage, enfin, elle a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais le spectacle, à mon sens, manque de construction quand même dramatique, dramaturgique et de cohérence, parce que voilà, on est quand même assez vite dans l'anecdotique. Alors les utopies s'affrontent, les idées sont bonnes, mais c'est mis de façon, enfin c'est organisé de façon un petit peu étrange, à mon sens, sur le plateau.
Corinne Rondeau.
Oui, c'est un peu de bric et de broc, on va dire. Bon, c'est 1967. Alors moi, je me suis dit, mais c'est Malraux aussi, quoi, qui parle de la culture. La culture doit être gratuite, puisque c'était le deuxième projet après l'éducation gratuite. C'était la culture gratuite. Parce qu'on a le Summer Love, c'est 1967. Et puis la carte perforée de IBM, c'est 67 aussi. Puisqu'en fait, dans ce hackathon, on a un projet de retourner dans le passé, dans le temps. Et donc, dans ce voyage dans le temps, on va nous donner, puisque la pièce quand même a une dimension très pédagogique, hein, d'où ça vient, etc., etc. Bon, c'est sans doute bien pour un jeune public. Bon, en même temps, moi, je trouve pas ça très intéressant. Sauf qu'il peut-être, qui était intéressant, c'est cette manière dont il répète sans arrêt gratuit. Et donc, évidemment, c'est l'idée de, il y a un utopiste, Garrett, qui veut se faire appeler Ulysse et qui, tout le monde va se faire appeler Ulysse dès qu'on est au théâtre du repas gratuit. Puisqu'il faut que la bouffe soit gratuite, il faut qu'un certain nombre de choses, tout doit être gratuit. Jusqu'au dernier discours de celui qui va créer je ne sais plus quoi, Kenneth Kevin, qu'on voit en 98 et puis ensuite en 2017, qui va ressurgir comme ça avec sa canne et qui va raconter que ben, effectivement ils ont inventé ça. Il n'y a plus de valeur dans les objets, mais il y a une valeur qui va être dans le tissage du réseau entre les individus et ça sera gratuit. Évidemment, on paye tout ça et puis après on va avoir des comédiens du côté des spectateurs pour justement avoir un côté nuit debout pour dire non mais l'ordinateur c'est un truc personnel et les data centers c'est des bombes nucléaires dans nos quartiers et ça prend l'énergie d'une ville de 50 000 habitants. Donc évidemment il y a tout ce côté petite polémique qu'on a et de ce qui doit se faire aussi dans cette recherche que vous avez citée, Arnaud, de la Seine-Saint-Denis. Il y a des data centers, c'est dangereux. Mais en fait, l'idée, je trouve géniale, peut-être géniale, j'exagère quand je dis géniale.
Formidable,
évidemment.
Allez.
Non, la bonne idée, c'était la gratuité, mais elle ne va nulle part. Et donc, l'idée de remonter dans le temps, puis ensuite de passer par-ci, par-ça, bon, on a un catalogue, on va dire. Moi, je trouve que cette actrice, ouais, elle m'a pas déplu, justement, pour cette mise à distance. Après, il y a des choses qui m'ont paru navrantes, vraiment. Mais cette question... Non, par exemple, il y a le Moloch, il y a une scène du Moloch, le type arrive à poil sur scène, on se demande bien pourquoi, il y a du plastique collé. Enfin, il y a des choses qui sont absolument incompréhensibles. Et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'ambition dans ce texte de vouloir toucher le public au plus près de la cité, quoi, Aubervilliers. Donc, évidemment, le contre la technique, la question de la gratuité, tous les institutionnels se posent la question, est-ce que ça favorise le lien social? En fait, ce texte de 2 heures, il est nourri par ça. Sauf que il y a juste ce qu'on peut avoir quand on voit des gens dans un bistrot en disant « ouais, c'est pas bien », et les autres qui disent « ouais, c'est bien ». Voilà.
René Solis.
Oui, moi j'aime bien le côté un peu foutraque du spectacle. Je suis d'accord que c'est pas complètement réussi. J'aime bien l'idée de départ, c'est-à-dire de partir du data center qui se construit sous les yeux. On sait pas ce que c'est quoi ces hangars, personne nous a prévenu. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans, des ordinateurs? C'est quoi ces ordinateurs? Ah oui, c'est ceux qui font tourner le cloud. Mais le cloud, c'est pas censé être dématérialisé, mais si. Bon, et à partir de là, il remonte et il remonte aux origines. Après tout, il dit, allez, 67, San Francisco, et on y va. Et il y a un côté presque naïf, oui. Que moi j'aime bien.
Mais c'est sympathique.
Allez, on y va et on imagine, on se remet le début des communautés, la contre-culture américaine, et puis le double, enfin les deux orientations, celui en gros qui l'idéaliste John Key, qui lui effectivement est le partisan de la gratuité absolue, mais qui termine à Attica en tôle et tué lors d'une révolte de la prison, donc qui est l'idéaliste absolu, le nihiliste. Et celui qui est réellement celui qui veut changer le monde et qui évidemment ça se termine mal. Et puis il y a les autres qui peu à peu font du business et qui sont et donc ça va chercher là-dedans. Alors c'est un peu maladroit, c'est assez naïf, c'est par moments très drôle, c'est par moments plutôt raté. Mais il y a là, j'aime bien moi que ça. ils y vont, ils osent aller chercher des choses. Ils disent tiens, on va aller fouiller là. Tout est loin d'être transcendant, mais il y a une énergie et un plaisir de faire qui moi me voilà, j'aime bien ça. Mmh. Et donc je trouve que voilà, ça ressemble pas au spectacle lambda. Il y a au moins ils prennent quelques risques quoi là-dedans et j'ai envie de le défendre et même d'envoyer les gens le voir à cause de ça.
Corinne mmh. Rondeau.
Ah oui, ils prennent des risques.
Alain Sekulevitch.
Oui, mais parce que en effet, ils prennent des risques parce qu'ils sont pas dans l'efficacité, ils sont pas dans le performatif. Non. Par moments, on est presque dans le grotesque, oui. dans le ridicule assumé, mais c'est ça c'est dans ce sens-là que je parle du premier et du second degré, c'est que ils s'amusent avec ça et ils ne se prennent pas au sérieux. Il y a aussi une belle idée qui est l'idée du faucon maltais qui revient comme ça à la mêlée. Alors oui, on peut dire qu'elle est posée comme ça, mais c'est assez joli fait donc cette idée de la statuette
du trésor qui n'en
suscite,
est pas un,
qui et suscite toutes les spéculations et qu'en fait n'en est pas un,
etc. Oui. Non, il y a plein de fils tirés. Il y a Ulysse, donc il y a aussi le voyage. Enfin, après tout.
Et Pénélope qui attend.
Forcément. From the ground to the cloud, Dev Golak, c'est une mise en scène d'Olivier Coulon-Jablanca et c'est à voir jusqu'au 21 janvier au théâtre de la Commune d'Aubervilliers. Et pour conclure l'émission, le jeu de la dispute. Et Grégoire Di Fior va nous rappeler quelle était la question de vendredi et nous donner sa réponse.
Quel groupe d'activistes américains dénonçait dans les années 90 la société de surveillance en jouant des scénettes devant des caméras installées dans l'espace public? Et la réponse était le Surveillance Camera Players.
Ah, bon accent anglais, Grégoire, je ne connaissais pas encore. Ce soir, on fait gagner des DVD du film Félicité d'Alain Gomis, film distribué par Jour de Fête. Quelle est la question?
Quel animal dont l'allure rappelle à la fois celle du zèbre et de la girafe vit exclusivement dans une petite région au nord-est de la République démocratique du Congo?
Voilà, qui est très pointu comme question. Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission et bien sûr vous abonner à son podcast. Demain à 19h, une dispute consacrée à la musique en compagnie de Mario Drou, Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, Jephtha de Handel, dirigé par William Christie, mise en scène Klaus Guth à l'Opéra de Paris. Le DVD de l'opéra Les Indes Galantes de Rameau, dirigé par Ivor Bolton, mise en scène Sidi Larbi Cherkaoui, c'est un DVD paru chez Bel Air, et puis enfin un CD et DVD des Troyens de Berlioz, version de concert, dirigé par John Nelson chez Warner.